ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille.
Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité.
Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort.
Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Et je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet.
Bienvenue sur 50 à Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.
Bienvenue dans le deuxième épisode de 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Je suis avec Thibaut Brousse. Thibaut, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur de projet à l'agence digitale 50 à. Et aujourd'hui, dans 50 à Galaxy, le podcast, on parle de l'immobilier. Quels sont les enjeux de la transformation numérique dans ce secteur d'activité ?
Après avoir assisté à des mutations sociétales et technologiques qui affectent tous les secteurs, on entre dans le dur, en particulier dans le secteur de l'immobilier. Il ne s'agit plus seulement de construire et de livrer des bâtiments. Toute la chaîne de valeur de la filière est concernée. La transformation numérique dans le secteur de l'immobilier impacte les différentes étapes du parcours projet ou du parcours client. Que ce soit la recherche de biens, la recherche de foncier, les procédés de conception et de fabrication, la modélisation numérique de bâtiments, on parle du BIM, la réalité virtuelle ou augmentée. Ce sont autant de process qui se numérisent, par exemple le contrat de construction ou la relation avec les fournisseurs.
Alors, à l'autre bout de la chaîne, les acteurs de l'immobilier proposent également des services augmentés, comme la conciergerie ou la co-conception, par exemple.
Exactement. Des solutions innovantes propulsées par des start-up vont également challenger l'activité des syndics ou même des agences immobilières. Elles vont faciliter la gestion de biens ou la mise en relation entre locataires et propriétaires. La technologie blockchain va également s'inviter en ce qui concerne la gestion des cadastres ou les smart contracts. N'oublions pas également la maison et la ville intelligente, on parle de smart city ou de smart home, qui allient data et objets connectés. Le secteur de l'immobilier est donc en pleine mutation et de plus en plus d'acteurs l'ont très bien compris.
Thibaut, merci et on retrouve tout de suite notre invité. Robin Rivaton, bonjour. Vous avez commencé votre carrière comme associate chez Boston Consulting. Vous avez été aussi conseiller du président d'Aéroports de Paris et depuis décembre 2016, directeur général de Paris Région Entreprise. Et vous êtes surtout fondateur de l'association Real Estate, qui rassemble les acteurs de l'innovation dans l'immobilier en France et en Europe, et auteur avec Vincent Pavanello de L'Immobilier de Demain, le Real Estate des rentiers aux entrepreneurs chez Duno, et qui est sorti en anglais sous le titre « Make Real Estate Great Again ». Robin Rivaton, racontez-nous la première fois que vous vous êtes connecté à Internet.
Alors, la première fois que je me suis connecté à Internet, c'était sur un modem 56K qui était bleu, puisque c'était un Omnicom de mémoire, et ça a été un grand moment de joie. C'était à mes 12 ans, donc ça, c'était avant les années 2000.
Robin Rivaton, quel est l'Internet de vos rêves ?
L'Internet de mes rêves, c'est déjà un Internet rapide, donc avec toute l'infrastructure physique à laquelle qu'on néglige parfois et que malheureusement sur laquelle on prend du retard, que ce soit le très haut débit, que ce soit la 5G. Donc d'abord cet impératif de rapidité, et puis un Internet qui soit collaboratif, c'est-à-dire sur lequel les acteurs, qui peu importe leur niveau, leur qualification antérieure ou leur capital, puissent s'exprimer, vendre, communiquer. Je pense que la principale force d'Internet, c'est de baisser les barrières à l'entrée, de bousculer des positions établies. C'est comme ça qu'on aime Internet.
Et quel est l'Internet de vos cauchemars ?
L'Internet de mes cauchemars serait assez classiquement, je dirais, un Internet extrêmement centralisé, détenu par des acteurs en place, que ce soit plutôt des gouvernements ou des grandes sociétés, et qui est plutôt tendance à restreindre la propension à la fois des libertés individuelles dans l'expression, évidemment, mais aussi des libertés économiques. Je pense que aujourd'hui, Internet, c'est sa force, a permis vraiment à un certain nombre de gens de créer leur propre activité, de devenir maître de leur vie, au-delà de la simple dimension d'expression, de blog et autres, mais vraiment cette capacité aujourd'hui pour certaines personnes à créer leur activité via Amazon, à pouvoir accéder à un certain nombre de devenir prestataire de services, c'est grâce à ça qu'Internet a servi.
Et quelle est votre définition de la transformation numérique ?
Alors le numérique est une révolution technologique comme il y en a eu plusieurs dans l'histoire humaine. Ça se base effectivement sur les réseaux et ça se base sur ce langage qui permet à des machines toujours plus perfectionnées de communiquer entre elles et d'être de plus en plus automatisées. Donc là, la transformation numérique pour moi. J'ai parfois une différence avec d'autres auteurs, c'est que je pense qu'elle est plus neutre que ce qu'on veut bien, en dire, et donc c'est à chacun des acteurs de pouvoir la saisir pour en utiliser, se transformer. Et je pense que les sociétés humaines sont aussi beaucoup plus complexes et beaucoup plus lentes à digérer le progrès technologique et la transformation numérique que parfois on le croit, et que donc les craintes très très importantes qu'on entend parfois sur la fin du travail, sur la disparition ou la dissolution des sociétés liées à cette transformation numérique sont parfois, en mon sens, surexagéré. Je pense que les sociétés humaines la digèrent lentement, comme elles ont digéré l'électrification, comme elles ont digéré la mécanisation via la machine à vapeur il y a 3 siècles de cela.
Et quels sont les enjeux de la transformation numérique pour l'immobilier ?
Alors, justement, c'est quand on parlait de lenteur de la transformation numérique, l'immobilier en est malheureusement quelque part un très fort exemple. Je pense que la transformation numérique a d'abord touché ou a d'abord attrapé les fruits les plus faciles à attraper dans l'arbre, pour reprendre une image anglo-saxonne, et qu'aujourd'hui la transformation numérique a pour objectif de changer très concrètement la façon de vivre, la façon de se loger, la façon de se nourrir, la façon de se déplacer, sachant qu'on a quand même des milliards encore d'êtres humains qui sont pas concernés par la transformation numérique que nous on a vécu en Occident, mais que beaucoup d'êtres humains n'ont pas encore vécu, et que aujourd'hui elle arrive dans ces secteurs un peu plus du matériel, du hardware, de l'infrastructure lourde. Et c'est là, dans l'immobilier, qu'on attend la transformation numérique. On l'attend parce que il est pas supportable que le poids de l'immobilier monte de plus en plus dans le budget des ménages, sans que la qualité des produits qui est offerte face à cela ne progresse. Et donc aujourd'hui, la transformation numérique doit nous permettre de faire une meilleure adéquation entre l'offre de bureaux et de logements et les besoins, doit permettre de les construire plus rapidement, doit permettre de mieux les adapter aux usages tels qu'on les connaît. On a des usages qui sont très différents de ceux qu'on avait il y a 40, 50, 60 ans, un siècle, et pourtant on vit dans des bâtiments qui ont cet âge là, qu'il est très cher de réaménager, de réadapter. Et c'est là où, pour moi, on arrive à une chose très importante, c'est que la transformation et la technologie, transformation numérique et la technologie seule ne vaut rien. Elle doit se conjuguer avec une action politique extrêmement forte. On parle beaucoup du foncier et du rôle du foncier dans l'immobilier. C'est un élément absolument clé de l'immobilier. Et le foncier est à la main et au pouvoir des politiques, et la transformation numérique joue assez peu là-dessus. Et c'est là où, en fait, je n'ai jamais versé dans une vision sur-technophile, sur laquelle la technologie est censée tout résoudre. Je pense que c'est la conjonction et la capacité du politique et des individus à saisir ces technologies pour aller dans un sens, pour aller dans une volonté politique. Et cette volonté, aujourd'hui, elle devrait être d'en construire plus pour faire baisser le coût de ces différents bâtiments dans le quotidien des Français ou des citoyens au niveau mondial.
Et vous diriez qu'on en est à quel stade comparé aux États-Unis et à l'Asie, par exemple ?
Alors,
en France, bien évidemment.
Comme je l'ai dit, la transformation numérique dans le bâtiment par rapport aux autres secteurs est plutôt en retard par rapport à d'autres secteurs tels qu'on les connaît. Et quand on la regarde d'un point de vue géographique, donc quand on compare l'état d'avancement de la transformation numérique de l'immobilier en France par rapport à des pays comme les États-Unis, la Chine ou le Royaume-Uni, il y a quand même un très fort retard aujourd'hui. Il y a un certain nombre de licornes, ces fameuses entreprises qui valent plus d'un milliard d'euros, qu'on retrouve aujourd'hui aux États-Unis, qu'on retrouve en Asie, et malheureusement qu'on ne retrouve pas en Europe continentale, alors même qu'elles ont, elles offrent et elles ouvrent des perspectives extrêmement importantes en matière de gains de productivité pour construire mieux, faire mieux correspondre l'offre et la demande, et donc encore une fois baisser le prix de ces produits dans le, et des services dans le budget des ménages.
Alors Robin Vivreton, vous avez aussi écrit des ouvrages de nature politique. À votre avis, combien de temps la politique, l'économie, va tenir avec le paradigme de l'ancien monde ?
Encore une fois, moi, je n'ai jamais adhéré aux théories qui manichéennes, qui définissaient un ancien monde et un nouveau monde. Je pense que la technologie met du temps à pénétrer les sociétés humaines. Comme je reprends cet exemple de l'électricité, mais parce qu'il est très parlant et qu'en fait il est beaucoup plus comparable que ce qu'on croit. L'électrification a pris du temps, il a fallu la domestiquer, il a fallu la diffuser. Ça a créé des gains de productivité, ça a déplacé de la valeur énormément dans les sociétés humaines. Mais ça s'est fait sur le temps d'une ou deux générations, et c'est aussi ça qu'on voit aujourd'hui dans le numérique. Donc il est quelquefois bon qu'il y ait des résistances, qu'il y ait des oppositions à la diffusion de ces technologies, et que si elles venaient, quand on parle des phénomènes de disruption, la disruption, c'est, ça peut passer être une très bonne chose pour les investisseurs qui ont investi dans ces sociétés qui disruptent, mais c'est aussi une très mauvaise chose à l'échelle collective. Il faut bien comprendre que il faut qu'il y ait du changement, mais que ce changement doit être mesuré, qu'il doit être maîtrisé, qu'il doit être aussi parfois mesuré d'un point de vue quantitatif, parce que s'il y a des gains de productivité, ça veut dire qu'il y a de la valeur qui est déplacée chez certains acteurs, il faut être en capacité de la mesurer. Si elle est trop importante, il faut être en capacité de la capturer pour la redistribuer. C'est aussi comme ça qu'ont fonctionné les sociétés humaines. Donc le fait qu'il y ait encore un ancien monde à côté de ce nouveau monde, moi ça me semble une très bonne chose. Il y a des secteurs qui semblent vraiment très conservateurs, et donc il est aussi de notre devoir de les pousser à faire évoluer, et je dis ça à dessein puisque c'est l'objet de mon action dans le secteur immobilier. Mais voir de l'ancien monde à côté du nouveau monde, ça me paraît plutôt une bonne chose.
Une dernière question, à votre avis, quels sont les secteurs qui vont se faire ubériser en 2018 et en 2019?
Si je le savais, j'investirais. Les secteurs qui vont se faire ubériser, je sais pas. Moi, encore une fois, l'ubérisation est un phénomène qui est très particulier et qui correspond à un marché très spécifique. En tout cas, des secteurs qui vont évoluer sous l'impact des nouvelles technologies dans les prochaines années, comme je le dis, sont plutôt pour moi les secteurs du hardware, qui touchent à des biens essentiels de la, ou des besoins essentiels de la personne humaine. Donc l'immobilier est très concerné. Tout ce qui a trait à l'agriculture, on va avoir l'agriculture, notamment avec les fermes urbaines, on va avoir des choses extrêmement importantes qui arrivent dans les prochaines années. Évidemment, la question de l'énergie aussi continue de se poser. Voilà. Et puis après, s'il fallait citer un exemple d'un secteur qui est capable de, vous parliez dans un monde, mais qui est capable d'avoir, de créer des barrières à l'entrée, celui de l'édition, par exemple, un secteur qui est relativement intangible en France, et à un moment se pose évidemment la question de sa capacité à faire face à des mutations. Mais des secteurs qui sont protégés par les lois, protégés par la régulation, il en existe beaucoup, et donc c'est aussi des protections vis-à-vis de cette disruption dont on parle souvent.
Romain Rivaton, merci.
Merci à vous.
Bienvenue dans la deuxième partie de 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Deuxième partie, podcast, réaction aux propos de Robin Rivaton sur la transformation numérique de l'immobilier. Je suis en compagnie de Robert Vinet, prospectiviste dans la blockchain, de Christophe Ducamp, évangéliste dans l'IndieWeb, et de Paul Richardet, agitateur de communauté. Messieurs, vous avez chacun 1 à 2 minutes pour réagir sur la transformation numérique de l'immobilier. Robert Vinet, c'est à vous.
Bonjour. Oui, la transformation numérique de l'immobilier, vaste sujet que Robin Rivaton nous décrit de manière prudente et mesurée, négligeant probablement quelques éléments qui modifient le panorama à toute allure. J'en citerai 2 pour mémoire. Évidemment, la blockchain qui est en train de changer de manière considérable tous les flux d'informations et la mémorisation de celles-ci, et qui impactera l'immobilier de manière très très importante. On cite toujours les titres de propriété, mais c'est que le petit bout de la lorgnette. Et Second aspect qui n'est absolument pas abordé par l'intervenant et qui va transformer de manière considérable l'immobilier, qui est tout ce qui est impression 3D. Car l'impression 3D, que ce soit au niveau de bâtiments ou même de structures telles que des ponts, est quelque chose qui, par définition, est un élément de transformation numérique dont notre commentateur ne semble pas prendre en compte l'importance. Voilà.
Christophe Ducamp.
Alors moi, sur l'immobilier, je rebondirai pas parce que j'ai pas trouvé d'insight chez Robin Rivaton. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup en vision de transformation numérique, c'est repartir sur des choses assez simples qui avaient testé, qui avaient déjà été testées il y a des dizaines d'années dans l'univers des startups. C'est repenser le bâtiment avec l'humain et repartir des fondamentaux qui est si chaque humain sur le territoire repenser un peu le réseau social du territoire, tout ce qui peut être la dimension de richesse. Et c'est là où peut-être on a des choses à attendre des politiques. Je pense notamment à des choses qu'il doit connaître, qui est le conseil régional de l'Île-de-France qui s'installe à Saint-Ouen, où j'ai vu des choses assez extraordinaires à Saint-Ouen autour du jardin ouvrier, où là il commence à se manier des connexions sur ce territoire. Et j'ai l'impression que là on pourrait attendre des gestes, enfin du politique en termes de transformation numérique d'un quartier qui est le Grand Paris, des ambitions un petit peu plus fortes pour aider les gens à se sevrer de Facebook et aller vers des choses qui aillent vers quelque chose qui ait du sens, qui puisse construire une richesse sur un territoire et a fortiori une richesse qui ait de la valeur pour le territoire du Grand Paris par exemple, où il y a tout à inventer au niveau sociologique et où on réinvente des quartiers.
Paul Richardet.
Oui, alors moi je reste un peu sur ma faim parce que je trouve que il nous promet une révolution, mais on voit pas bien. Il n'y a pas beaucoup d'éléments qui sont très séquents, qui sont originaux. On nous dit que ça va sauver la planète, mais en fait on s'est rendu compte que le numérique pouvait aussi la détruire, qu'il pouvait faire augmenter les concentrations, le pouvoir centralisé, etc. Donc moi je suis un peu réservé sur le. Soit ils gardent des choses sous le coude. Soit on est un peu dans une naïveté. Donc bon, l'immobilier, on le sait, hein, c'est de l'argent en fait. Hein, c'est il y a des banques qui détiennent du l'immobilier uniquement comme une ligne de bilan. Après, on voit aussi les phénomènes de plus-value. On voit aussi que de plus en plus de gens sont exclus de l'appartement, non pas de maison. On voit aussi le rapport entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire que plus on est près du centre, plus c'est cher, mais plus on est près du pouvoir. Bon, tout ça, ils le traitent pas. Alors moi, je pense qu'il y a un enjeu, ce que je crains, c'est que encore une fois, on nous propose quelque chose qui soit un peu gentil, un peu naïf, et puis qu'un certain jour, il va y avoir une vague terrible qui va arriver de Chine ou de je ne sais pas où, et qui va remettre en cause les rapports de force et les modèles économiques. Et dans son interview, je ne vois pas bien par où ça va venir.
Nicolas Bermond, directeur de l'agence Cinquanta.
Bon, je me permets. Donc moi je trouve ce qui est intéressant chez Robin Rivaton, c'est il dit que la technologie met du temps à pénétrer les sociétés humaines. Et je pense que cette réflexion on a des prospectivistes en face de nous, mais cette réflexion en fait de dire que finalement ça va pas aussi vite que ce qu'on peut voir à l'étranger, etc. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Il parle d'une cohabitation aussi positive entre un ancien monde et un nouveau monde, donc je trouve que c'est plutôt positif. Je le vois pas réellement non plus, et que finalement cette transformation numérique, elle amène en fait de la qualité et du prix. Donc ça, je trouve que c'est intéressant, mais ce serait plus à approfondir en fait comment la transformation numérique finalement va servir aux utilisateurs en termes de qualité et de prix.
Guillaume Berger, je suis fondateur de Karmapolis.io, qui est un réseau social, éthique, utile et solidaire. Moi, la question que je me pose quand on parle de transformation numérique, mais dans le secteur de l'immobilier comme dans d'autres secteurs, c'est le souci de voir si cette transformation numérique ne va pas profiter à quelques géants. Quelques géants qui, derrière, vont dominer le monde, s'asseoir sur les données, s'asseoir sur... on le voit bien avec les scandales aujourd'hui qui secouent le web. Et ce que je pense, dans un secteur aussi sensible que l'immobilier, c'est qu'il est essentiel que cette transformation numérique profite aux consommateurs. et de façon générale profite à tous. Et en cela, c'est quelque chose que je n'ai pas entendu dans le discours de Robin Rivaton, qui effectivement est plein de belles envolées sur ce que sera le marché de la transformation numérique dans l'immobilier de demain. Mais quid de ce rapport de force qui se constitue entre des entités monopolistiques et derrière des consommateurs à la traîne qui payent les loyers, comme vous le faisiez remarquer tout à l'heure, toujours plus chers dans des environnements toujours plus complexes. On parlait de l'accès au logement, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et pour ma part, je pense qu'au-delà juste de la transformation du secteur, je pense que des acteurs doivent intervenir pour que l'information arrive, l'information juste, l'information transparente arrive jusqu'au consommateur pour lui permettre d'aiguiller au mieux ses choix dans un marché qui devient de plus en plus complexe et de plus en plus inatteignable. Et vous parliez tout à l'heure de volonté politique, et si effectivement, sur la volonté politique, c'est un enjeu. La volonté politique, elle doit être sur l'aide aux consommateurs.
Deuxième round de notre podcast, et on commence avec Paul Richardet.
Bon, alors sur l'immobilier, c'est vraiment c'est la brique et le mortard, hein. Donc c'est presque l'antinomie du numérique. Moi, il y avait une question qui m'intéressait, qui est un peu la tarte à la crème du moment, c'est les données, les data, les fameuses data. C'est-à-dire qui va avoir les données et qui va être capable de les traiter, de les utiliser, et notamment dans le cadre du marché, parce que l'immobilier, c'est un marché. Et donc, je trouve que là, c'est des questions qu'on pourrait se poser. C'est effectivement si par exemple, si on sait que tous les gens vont déménager après les vacances, qu'ils vont aller dans tel et tel type d'endroit, on peut avoir des poussées de l'immobilier qui seront peut-être plus importantes. De la même manière que quand il y a une grève, le prix de Uber est multiplié par 2,5. Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un questionnement peut-être plus économique, en fait. Et d'utiliser les données des personnes, d'utiliser les données de l'immobilier pour mieux comprendre ce marché, voir s'il y a des effets de perversion d'ailleurs, s'il y a des effets de monopole, et de peut-être de rendre leurs droits aux utilisateurs.
Alors moi, Paul, je vais peut-être rebondir parce que pour des choses concrètes sur cartographier un peu le territoire. Le truc dont je rêverais, et j'ai toujours pas trouvé vraiment concrètement, c'est si demain je veux acheter un logement, j'attends un bébé, etc. Est-ce qu'il existe des cartes, des indicateurs de pollution, des nuisances sonores, etc. Donc ça, c'est les premiers trucs qui sont assez faciles à produire au niveau local. Et puis après, je reste toujours sur mon dada IndieWeb, qui est la richesse sociale d'un territoire, outre le fait que le terrain, il est favorable aux, nuisances sonores, encombrements et toutes ces open data territoriales que je puisse concrètement délivrer et distribuer aux futurs occupants. Après, ce sont les composantes sociales locales qui peuvent aussi se traduire en termes de données. Et là, je pense que c'est un secteur qui mériterait vraiment de se pousser un peu en termes de réflexion pour produire des premiers prototypes fonctionnels sur des quartiers.
Mes camarades ont globalement élevé le débat. Et moi, j'aimerais quand même me remettre dans la ligne de ce que l'on a entendu en 12 minutes, qui est que Robin Rivaton, dans sa description de la transformation numérique de l'immobilier, je considère conservateur, je l'ai manifesté tout à l'heure, mais il a le bon goût d'être en alerte et de dire qu'il ne sait pas d'où ça viendra, mais ça viendra, et de regretter que la transformation numérique du secteur se passe de manière trop lente. Et là, bien évidemment, cette transformation numérique, elle doit s'accélérer, mais on doit lui saupoudrer très exactement, probablement, ces réflexions autour du data et autour du local, pour reprendre les brillantes descriptions que vous nous en avez faites.
Là où je rejoins Là où je rejoins Robin Rivaton, c'est sur cette transformation numérique, cette transformation numérique qui est effectivement nécessaire. Parce que il y a une attente réelle aujourd'hui. Ce qui est clair, et même pour un néophyte comme moi, c'est que le système ne fonctionne pas. Ces loyers qui n'en finissent plus d'exploser, la gentrification, l'activité économique dans les quartiers qui périclitent. Aujourd'hui, le numérique est la transformation numérique de l'immobilier représente une belle promesse sur tous ces sujets. Imaginons que demain, on ne choisisse plus un appartement en fonction de sa taille, mais en fonction du quartier, des écoles, des services qui sont à proximité. Tout ça, c'est une promesse que le numérique peut résoudre et on peut proposer de nouveaux modèles là-dessus. Et s'il y a disruption, j'aime pas ce mot, mais s'il y a disruption sur ce secteur-là, je pense qu'elle viendra, elle réussira à partir du moment où elle arrive à servir les intérêts du consommateur.
Juste un petit mot pour conclure, pour remercier en fait tous nos chroniqueurs pour ce podcast. Hein, on rappelle le modèle, hein, un podcast où on fait une interview en fait d'un acteur de la transformation numérique de son secteur. Et l'idée est de faire 2 minutes qui sont un petit peu divergentes et 2 minutes convergentes pour avoir une sorte de réflexion collaborative pour faire avancer le sujet de la transformation numérique. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve le 2 mai pour un nouveau podcast et un nouveau podcast. Merci à tout le monde.
Merci d'avoir suivi le 2e épisode de 50 à Galaxy, le podcast de la transformation numérique. Pensez à vous abonner pour télécharger gratuitement et automatiquement les prochains épisodes sur votre smartphone et rendez-vous le 2 mai prochain.